Ce balado est un contenu publicitaire payé par Desjardins.
Docteur Zakel, demandez un salut.
Okay. Are you doing this?
Yeah, right.
It hurts. All right, I'll follow up on the result. I'll give you a call.
Thank you.
Sounds good.
À la base, quand tu vas en médecine, c'est parce que tu as cet appel-là, tu as cette ambition-là de vouloir aider, de vouloir à ta façon changer le quotidien. Pas nécessairement de centaines de milliers de personnes, mais de quelques personnes. T'sais, autant il y a eu beaucoup de synergie entre la médecine puis le football pendant les 9 années que j'ai joué dans la NFL. Il y a aussi eu certains moments de confrontation. T'sais, la pandémie en a été un parce que, d'un point de vue très individualiste, tu viens de gagner un Super Bowl, tu veux retourner jouer. L'argent, la grandeur du sport. Puis d'un autre côté, ben, ce que je me disais tout le temps, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand le football va être terminé, qu'est-ce qui va rester? Cette action-là de dire que pendant un an, quand les gens en ont besoin, t'es capable de sacrifier un peu de tes propres avantages individuels, je suis fier de l'avoir fait.
Je m'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Puis à l'invitation de Desjardins, j'ai demandé à des gens de partout au Québec qu'est-ce que ça veut dire pour eux être ambitieux. Parce que le mot ambition n'a pas toujours une connotation positive. Puis on a une relation bien particulière avec ça. On veut réussir, on veut du succès, mais on veut surtout pas avoir l'air de s'en vanter. Bref, je me suis dit qu'on était dû pour plonger ensemble au cœur de l'ambition.
Quand j'ai piqué en médecine, j'ai été refusée à peu près partout sur des listes d'attente.
Toi aussi?
Oui.
Mon Dieu, on le sent en commun.
Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon orienteur du temps m'a dit, ben, il dit, applique à McGill. Parce qu'il dit, t'as une entrevue à McGill. Avec ce que t'as comme rêve, je pense qu'ils vont avoir une certaine écoute.
C'était quoi ce rêve-là?
Mais moi, c'était aller travailler dans les pays en voie de développement. Là, on appelait ça des pays en voie de développement. Et j'allais travailler là-bas où il n'y avait aucun médecin. Puis je vais faire une différence dans la vie des gens.
Ce que j'entends, ça m'étonne aucunement de la part de Dr. Joanne Liu, qui a longtemps assuré la présidence de Médecins sans frontières. Je trouvais ça important de lui parler parce que, ben, premièrement, je suis un grand fan, mais aussi parce que quand on parle d'ambition, ça a souvent une connotation personnelle, un peu égocentriste. Je veux me dépasser, je veux me réaliser professionnellement, mais il y a clairement une autre forme d'ambition. Une ambition qui est plus tournée vers les autres, vers la collectivité. Puis c'est ça que je veux comprendre aujourd'hui. Comment quelqu'un peut décider de vouloir se battre contre des inégalités aux dépens de ses gains personnels puis venir en aide à sa communauté? Comment on arrive à avoir cette ambition-là? C'est ça dont je discute avec Dr. Liu, qui a consacré sa vie à aller là où les besoins étaient les plus criants.
Ça, on parle beaucoup de l'ambition d'un point de vue des fois carriériste, d'un point de vue capitaliste. Toi, c'est quoi ta vision d'ambition?
C'est sûr que moi, ce ne serait pas le terme. Je dirais que ce serait la motivation. Puis ma plus grande ambition, ça a toujours été pour mes patients. J'ai toujours voulu que mes patients en aient plus. J'ai toujours voulu que l'accès aux soins soit un droit, qu'il soit un acquis. Puis c'est pour ça que je me suis battue. Et ça a toujours été mon moteur pour faire plus de choses.
Tu as décidé clairement d'agir sur le terrain avec tes nombreuses missions humanitaires, mais tu as aussi décidé d'être impliqué dans différentes sphères politiques. Tu t'es impliqué aussi au niveau d'MSF, Médecins sans frontières. Tu étais à la présidence pendant quoi? 10 ans?
6 ans.
Pourquoi c'était important pour toi de faire ce pas supplémentaire-là que tu n'avais pas besoin de faire?
Je veux dire, ça demeure un choix, je crois, personnel, d'utiliser le poids de ta fonction puis ton autorité morale, si tu en as ta plateforme, pour en faire plus. Je veux dire, on a toujours le choix d'en faire moins.
Puis pourquoi on choisit d'en faire plus?
Moi, dans mon cas de figure à moi, j'en fais plus parce que je trouve ça intolérable, la situation par rapport à certaines communautés ou certaines personnes. Très, très jeune, quand je voyais le besoin de populations vulnérables, je trouvais ça tellement énorme que c'était pas possible de pas agir. J'étais jeune, là, parce que le Biafra, c'est 1971. J'avais 5-6 ans, mais je me rappelle que ces photos, ces images-là m'ont profondément marqué. On n'avait jamais vu ça avant, fait que c'était live ce qu'on voyait. Ça nous était servi au téléjournal, puis moi, ça m'avait profondément marqué.
Il y a des grandes choses qui ont été accomplies dans l'aide humanitaire dans les dernières décennies, mais ça reste qu'on dirait que la situation est de plus en plus critique. Comment on fait pour rester motivé à s'impliquer et à essayer de changer les choses dans ce temps-là?
Moi, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit... Il dit, c'était essoufflant de regarder Médecins sans frontières. Ils avaient une indignation perpétuelle. Il dit, essoufflant. Mais je pense aussi que tu vas chercher une partie de ton énergie là-dedans.
Ça doit te fâcher, la vie de tous les jours, si c'est comme ça que tu te sens, non?
Non, je suis pas fâchée. Moi, je me trouve tellement privilégiée, honnêtement. C'est tellement extraordinaire d'avoir une job. Puis à tous les matins, je me lève, puis je me dis, waouh, je voudrais tellement pas être ailleurs. Puis ça m'amène sur le sujet de l'espoir. J'ai toujours un immense bonheur, vu que je suis pédiatre. Donc, je fais beaucoup de missions pendant la guerre, puis souvent pendant la guerre, t'as de la malnutrition. Puis tu sais, t'as un enfant qui arrive de 3 ans, puis qui a un poids d'un enfant de 6 mois, puis qui marche pas quand il arrive, puis 3 mois après, il marche, puis il bolle ton stéthoscope. Je trouve ça assez cool. Très, très, très cool. Puis c'est ça. Avoir des lueurs d'espoir, ça fait que les gens passent à travers.
Wow! L'altruisme de cette femme-là m'impressionne vraiment. Puis c'est vraiment inspirant d'entendre Dr. Liu dire à quel point son but, c'est pas la finalité, mais c'est d'allumer des lueurs d'espoir sur son chemin. Tout ça, ça m'a amené à me tourner vers la société VIA, qui place elle aussi l'espoir au cœur de son ambition. La mission de l'organisme, c'est d'offrir des centaines d'emplois à des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles dans un de leurs centres de tri à la grandeur de la province. Quand on dit limitations fonctionnelles, on parle par exemple d'adultes qui présentent un handicap ou des difficultés d'ordre physique ou intellectuel. La société VIA les aide à s'accomplir personnellement, tout en jouant un rôle essentiel pour la collectivité. On s'est rendu à leur siège social à Lévis pour rencontrer Myriam Joyal, une employée qui travaille sur la chaîne de tri de matières recyclables, ainsi que Jean-Sébastien Daigle, qui est président-directeur général de la société VIA.
Société VIA est née en 1967. La mission, qui est toujours la même aujourd'hui, était de créer des emplois pour des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. On a commencé dans la fabrication de tartes au sucre, donc on était vraiment dans le domaine alimentaire. Et quand le bac bleu est apparu au début des années 90, on s'est lancé dans le recyclage. Le médium de travail, au final, est pas important. Il est important dans le sens où il doit être adapté à nos employés.
Moi, ça m'a permis d'être autonome, de pouvoir vaquer à mes finances, tu sais. En tant qu'adulte, j'ai fait mon équivalence de 5, je veux dire. Puis là, tout ce que je voulais, c'était de parvenir à une grande autonomie, hein, puis un travail. Ça m'a permis de me sentir accompli.
On a une philosophie de gestion vraiment qui veut allier le bien-être humain à la performance. Plutôt que de focusser sur les résultats, on a focusé sur le bien-être de nos employés. Puis l'idée, c'est de permettre aux employés surtout de travailler sur leurs forces, pouvoir mettre leurs couleurs et sans jugement. Parce que ça fait des gens qui sont inspirés, qui aiment ce qu'ils font, qui sont mobilisés. Fait que c'est comme ça qu'on va plus loin. Et puis on a beaucoup de gens maintenant, autant à l'informatique qu'à l'administration, qui ont une limitation. Donc c'est des gens qui souvent proviennent de nos usines, donc qui étaient trieurs, puis éventuellement, ils ont évolué vers d'autres postes par leur intérêt, par leur ambition.
Je suis à différents postes vu que je suis polyvalente. J'aime les défis, j'aime y aller mettre ma touche personnelle. J'aime ça décider.
Ça me touche parce qu'on entend vraiment l'ambition dans la voix de Myriam quand elle dit qu'elle aime décider. Pour vrai, il y a tellement de choses qu'on peut admirer dans la mission d'un organisme comme VIA. Je trouve ça particulièrement beau parce que chaque employé est vraiment encouragé à miser sur ses forces. Puis ça, c'est une bonne manière de cultiver l'ambition, je trouve. Faire rayonner les autres, c'est aussi ce qui motive Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti jusqu'à tout récemment. Tu sais, quand tu quittes ton pays, c'est souvent parce que tu rêves de quelque chose de mieux pour toi, pour tes enfants. Puis ça aussi, c'est une forme d'ambition.
Fait que c'est pour ça que je suis allé parler avec Marjorie, qui elle-même est arrivée au Québec comme immigrante et qui aujourd'hui aide les nouveaux arrivants à s'installer ici. Marjorie Villefranche, ça fait longtemps qu'elle s'implique activement dans sa communauté. Elle a d'ailleurs contribué à organiser la marche du pain et des roses, la première en 1995. Elle a reçu aussi la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2024, une récompense drôlement bien méritée pour quelqu'un qui a passé sa vie à lutter contre la discrimination. Je l'ai rencontrée à Montréal, dans son bureau avec une vue imprenable sur une cour d'école avec des enfants du quartier qui jouaient.
Voilà mon bureau. Oh. Quand on a construit la maison d'été, j'ai dit, je vais mon bureau là pour que je puisse voir les enfants.
C'est ce qui vous motive à chaque jour?
Oui, l'été, on les entend, c'est vraiment beau.
Quand je suis arrivée ici à 12 ans, je suis arrivée en pleine dictature de Duvalier. Donc mes parents nous ont envoyé, mon frère et moi, ici, mais eux, ils étaient en Haïti encore.
Vous êtes arrivée seule?
Oui, avec moi, même pas avec mon frère, parce qu'on n'est même pas arrivés en même temps. Fait que je suis comme arrivée seule, puis après ça, bon, j'étais tout de suite mise en pension. C'est comme quand t'as un puzzle, et puis tu cherches les morceaux qui te manquent. Bon, mais je me sentais comme ça quand j'étais ado, parce qu'il y a comme des morceaux qui me manquaient. Et puis finalement, j'ai rencontré Adeline Chancy, qui venait de mettre en place, c'était les fondateurs de la Maison d'Haïti.
C'est quoi la mission de la Maison d'Haïti?
C'est un travail d'éducation populaire et donc de soutenir des personnes qui sont des immigrants d'origine haïtienne et d'autres origines, mais à devenir des citoyens, en fait. Tout le travail qu'on fait, c'est vraiment pour que les gens deviennent citoyens du pays où ils sont. Donc, que ce soit à travers toutes les 6 coordinations qu'on a, dans l'intégration, dans l'éducation, le travail avec les femmes, le travail avec les jeunes, c'est tout le temps d'aller chercher ce sentiment de citoyenneté.
Depuis notre conversation, Marjorie a pris sa retraite après plus de 40 ans d'implication sociale. Je suis convaincu que tout ce qu'elle a semé autour d'elle va continuer à grandir puis que son engagement va laisser des traces durables pour la communauté haïtienne.
Vous, c'est quoi vos ambitions pour la communauté haïtienne au Québec?
C'est un peu difficile de dire une seule phrase même parce qu'il y a tellement de choses que je vois comme ambition. Je vois une communauté qui est bien installée, une communauté qui est utile, une communauté qui est créative, et une communauté qui n'oublie pas son pays d'origine, mais une communauté aussi qui travaille pour le bien-être de la société là où elle est installée, donc pour le Québec. Donc moi, cette ambition-là, c'est comme ça que je la vois, mais je pense qu'on est... Les Haïtiens sont très ambitieux aussi, je veux dire, je regarde ce qu'ils ont réalisé déjà au Québec, je trouve ça déjà magnifique, en 5-6 décennies. On peut dire maintenant qu'on a une culture afro-québécoise, francophone. Mon ambition secrète, c'est que la culture afro-québécoise, donc empreinte de culture haïtienne, soit dans l'univers et dans l'imaginaire des Québécois d'origine. Qu'on arrive à être dans votre imaginaire. Toujours quand je lis, par exemple, je lis un livre québécois et il y a un personnage haïtien, je dis « Ah, on est rentré dans l'imaginaire. » Ça y est, on commence à rentrer.
Durant toute sa carrière, Marjorie Villefranche a essayé d'offrir exactement le soutien qu'elle aurait aimé recevoir en arrivant à Montréal. Je suis content qu'on ait abordé cette facette-là d'ambition aujourd'hui. Parce que quand on a commencé notre épisode, j'étais pas certain que le mot « ambition » était vraiment juste pour décrire le travail de ces deux femmes extraordinaires. Puis honnêtement, je sais toujours pas si c'est le bon mot. Joanne Liu parle plus de motivation, puis je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'elle a accompli. Ce que je me suis rendu compte à travers ces conversations-là, c'est que des fois, les gestes altruistes, c'est pas juste bénéfique pour les autres, c'est aussi bénéfique pour soi. Au prochain épisode, on se tourne vers l'avenir. C'est quoi nos ambitions pour le futur? Quel genre de défis et d'opportunités attendent les ambitieux et les ambitieuses de demain? On en parle bientôt au cœur de l'ambition.